Bonsoir et bienvenue sur Agora Côte d'Azur, dont Parlons des droits humains, une émission proposée et animée par Renaud Broukis
et Martine Monti,
avec à la réalisation Nancy Zautier. Ce soir, nous allons aborder le thème de la liberté d'expression avec Alexandre Faure, président de l'association Le Crayon. 10 ans depuis la tuerie dans les locaux de la rédaction de Charlie Hebdo, cela a récemment remis en lumière la liberté d'expression, la liberté de la presse et de nombreux débats et échanges ont eu lieu. Cette liberté d'expression qui semble évidente, fondamentale, est liée à d'autres valeurs et droits de la République, comme illustrent les propos du président de la République d'alors, François Hollande, le 7 janvier 2015. Aujourd'hui, c'est la République tout entière qui a été agressée. La République, c'est la liberté d'expression. La République, c'est la culture, c'est le pluralisme, c'est la démocratie. Elle est aussi liée à la laïcité et à la liberté d'opinion. Et il faut évoquer également la liberté de la presse ou des médias par extension. Et pourtant, de tout temps, elle a été limitée, voire censurée, pour protéger les individus ou les sociétés. Sans doute avec raison, mais comment fixer les limites? Peut-on tout dire? Peut-on rire de tout et de tous, y compris des termes religieux? Où placer le curseur du respect et de l'irrespect? Une des formes de cette liberté d'expression est l'humour, l'ironie, la satire, la caricature, justement, ce qui a conduit au meurtre du 7 janvier 2015. Comment expliquer et ou comprendre une telle intolérance? L'éducation et l'accès à la culture semblent les seuls remparts possibles contre cette intolérance et de nombreuses structures œuvrent dans ce sens. Par exemple, Cartooning for Peace, réseau international de dessinateurs, utilise l'humour pour sensibiliser aux grands problèmes de la société à travers le dessin de presse. L'association Le Crayon est présente dans notre région et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir son président, Alexandre Faure, avec qui nous aborderons ce thème de la liberté d'expression à travers notamment les caricatures et les dessins de presse. Mais auparavant, nous prenons le temps d'une pause musicale avec Aretha Franklin, respect.
Bonsoir Alexandre Faure. Avant de rentrer dans le thème de ce soir sur la liberté d'expression, est-ce que l'on pourrait en quelques mots présenter ce qui vous êtes et votre parcours? Vous dites que vous êtes historien, spécialiste d'histoire culturelle et d'histoire politique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça?
Oui, dans une première vie, en fait, j'étais chercheur en histoire sous le nom de mon nom d'état civil, à savoir Christian Faure. En tant qu'historien, j'étais connu sous ce nom et spécialiste plus particulièrement de l'idéologie vichiste et de ses liens avec une science, l'ethnologie du domaine français. Et mes travaux, montraient combien cette science, qui était encore une science assez neuve, qui était issue du folklore, des folkloristes, c'est totalement, bien que fondée sous le Front populaire, a été, manipulée, travestie, totalement transformée et utilisée par l'État français de Vichy. Au service donc de l'idéologie vichiste.
D'accord. Ensuite,
j'ai publié donc mes travaux sous le titre Le projet culturel de Vichy aux éditions du CNRS et des presses universitaires de Lyon. Et après, j'ai pendant plusieurs années conçu en tant qu'historien le centre d'histoire de la résistance et de la déportation à Lyon, situé avenue Berthelot, qui était à l'époque de la guerre le centre de la Gestapo.
D'accord. Et ensuite, vous avez été fondateur de revues d'art, de revues pour enfants.
Oui, alors ça nous ramène en 1991. Et effectivement, j'ai donc créé la première revue d'art pour enfants, qu'on a appelée Dada, en clin d'œil bien sûr au mouvement dadaïste, qui est un mouvement que j'adore, mais c'était pas uniquement pour des raisons personnelles, c'était que le mot Dada peut être pris à plusieurs niveaux pour un enfant. Avoir un Dada, c'est avoir des passions. Et puis peut-être même un petit compagnon, un dada c'est un petit cheval, donc chacun y voyait sa lecture, et c'était l'esprit de la revue, puisqu'en fait elle s'adressait à des lecteurs de 6 à 106 ans. Donc,
que des jeunes quoi.
Que des jeunes, et on partait du principe qu'on pouvait être enfant en art, même en ayant largement dépassé l'âge de l'enfance.
D'accord. Puis vous avez fondé Neuf de Cœur également.
Oui, alors ça, c'est à l'issue, j'allais dire, le monde de l'édition n'est pas toujours tout rose, hein. Il y a la bibliothèque rose, mais le monde de l'édition n'est pas nécessairement rose. Et le groupe d'édition dans lequel je travaillais, où j'avais été intégré, la revue Dada est née en dehors de tout groupe d'édition. C'était une aventure avec ma compagne et des amis. Mais en 2005, il y a eu le rachat des éditions Mango par un très gros groupe d'édition qui s'appelle Média Participation, et pour des raisons d'éthique, avec ma compagne et toute l'équipe, nous avons préféré nous faire harakiri et partir ailleurs.
D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites?
Alors aujourd'hui, bien évidemment, c'est la raison pour laquelle je suis auprès de vous. J'ai donc créé cette revue, cette association qui s'appelle Le Crayon et qui se bat pour la liberté d'expression, notamment particulièrement, je dirais, dans le dessin de presse. Mais on a, avec ma compagne, décidé de réaliser enfin un vieux rêve qu'on avait depuis qu'on se connaît, donc depuis très très longtemps, de prendre la plume sur un plan romanesque. Et donc on vient de terminer, il y a peu de temps, une trilogie qui s'appelle Les Dents Noires, qui a été reprise en poche par le groupe J'ai Lu. Et nous terminons ces jours-ci un nouveau roman qui doit paraître en 2025.
Et qu'est-ce qui a motivé finalement votre engagement en faveur de la liberté d'expression particulièrement ?
J'allais dire que ça a été un grand choc. C'est-à-dire que le 7 janvier 2015, quand on a entendu ce drame totalement auquel, j'allais dire, personnellement, j'aurais jamais imaginé ça, mais je crois que peu de gens en France pouvaient concevoir qu'on puisse assassiner des hommes et des femmes pour un dessin. Donc ça a été un choc, et puis une sorte de réflexe, j'allais dire comme quand on est piqué par une guêpe, on a une réaction, et là c'était du même type. Je me suis levé, j'ai dit à ma compagne, on peut pas en rester là, quoi.
Je vous invite maintenant à rentrer dans ce qu'est la liberté d'expression. Il y a de nombreux textes internationaux, nationaux et internationaux. Par exemple, l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Et cet article dit également que la liberté d'expression permet et conditionne l'exercice d'autres droits et libertés, tels que la liberté d'opinion, la liberté de presse, la liberté de manifestation ou le droit de grève, etc. Comment vous, est-ce que vous définiriez personnellement la liberté d'expression ?
Alors, déjà, le mot liberté, à la base, je pense que c'est probablement la valeur la première, fondamentale de la République. Donc après, il y a effectivement liberté d'expression, liberté de penser, liberté de jouer, liberté de rire, liberté de chanter, liberté de... Vous voyez, elle peut s'exprimer de façon... très, très multiple, mais à la base, ça participe de ce qui est indispensable, comme peut l'être l'eau, l'air, c'est un des fondamentaux de la démocratie, de la culture. On ne peut pas parler de culture si on n'a pas cette idée de liberté. C'est vraiment pour moi le 7 janvier 2015, c'était une remise en cause fondamentale de la culture républicaine française. C'était voilà.
Alors c'est vrai que quand on reprend le mot liberté qu'on va chercher dans le Robert ou le Larousse, dans le Larousse, on trouve 14 définitions différentes de la liberté. Il y a une définition qui m'a accroché et qui est la suivante. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. Elle a pour principe la nature, pour règle la justice, pour sauvegarde la loi. Sa limite morale est dans cette maxime, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse finalement. Donc est-ce que la liberté pour vous, c'est je fais ce que je veux ? Est-ce que la liberté d'expression, c'est je dis, je dessine, j'exprime ce que je veux ? Ou est-ce qu'il y a autre chose quand même ?
J'allais dire que nécessairement, dans si on veut aborder la question, comment dire, de la règle, hein, de la loi, qui dit liberté, dit nécessairement des limites. Je pense qu'on ne peut pas envisager une société sans garde-fous. Et en 1789, j'allais dire, puisque c'est un des moments importants, hein, fondateurs de ce mot, il y avait des limites à la liberté. Et quand il y aura plus tard, notamment je pense à la loi de juillet 1881, la liberté d'expression, elle n'est pas totale. Elle est immédiatement, comment dire, encadrée par la loi, et notamment par des notions telles que l'injure, la diffamation. Et puis, j'allais dire que, et heureusement, après 1881, qui a été une loi fondamentale, vraiment précieuse, hein, puisque c'est quand même une loi qui a installé ce que le 19e siècle, c'est un siècle de censure avant tout. Hein. Donc en 1881, ça a été une libération, et notamment au niveau de la presse. Mais on s'est très vite rendu compte, à la République, qu'il fallait après de nouveau apporter des nuances. Donc il y a eu plusieurs lois. Il y a des lois qui protègent les mineurs. Il y a des lois qui protègent de l'antisémitisme. Il y a des lois qui protègent du racisme. Il y a des lois qui protègent du négationnisme, de la négation de la Shoah, vous voyez. Donc, et il y a depuis 2004 aussi des lois qui importantes au niveau de la laïcité.
Vous évoquiez la loi de 1881 qui écrit « La provocation aux crimes et délits reste sanctionnée ». Hein, de même que l'apologie de crimes contre l'humanité ou l'incitation à la haine ou à la violence en raison de la religion. On va revenir un peu sur ces différents articles, ou encore la diffamation contre un groupe religieux. Donc, vous concevez effectivement qu'il est nécessaire d'avoir des limites,
oui,
à la liberté d'expression.
Je crois que les limites, elles sont dans les textes, dans la loi.
Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'un certain côté un risque à ce que les pouvoirs en place ou les lobbies politiques, confessionnels, économiques, etc. se réclament de ces motifs pour attaquer en justice les gens qui disent des choses qui ne leur plaisent pas?
Oui, mais à ce moment-là, ça se résout devant des tribunaux et non pas avec une Kalachnikov. J'allais dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit d'attaquer quelqu'un en justice, et après c'est la justice qui décide. Et dans le cadre de Charlie Hebdo, sauf erreur, la justice n'a pas donné tort à l'équipe de Charlie Hebdo sur ces questions de blasphème.
Et si je vais plus loin, est-ce que, selon vous, des mouvements politiques un peu extrémistes qui sont ouvertement racistes ou qui mettent en avant l'exclusion des autres et se positionnent contre les valeurs de la République n'auraient pas dû être interdits d'expression aux mêmes raisons que ces motifs-là?
Oui, moi je pense que je pense qu'il faut condamner enfin toute prise de parole antisémite ou raciste, ou ça tombe sous le coup de la loi. Il y a quelques jours, le même jour que la tuerie du 7 janvier, on vient d'apprendre le décès de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen et son détail de l'histoire, c'est passible de la loi. Je veux dire, c'est du négationnisme.
Alors voilà, on a parlé des limites légales. Il y a également, je dirais, l'autocensure hein, qui dépasse finalement le contexte légal, parce que indépendamment de ce que la loi autorise ou interdit. Plus personnellement, est-ce que, selon vous, on peut exprimer toutes les opinions que l'on a ou qui se posent là? Alors, vous parlez du négationnisme, ça peut être le mensonge flagrant. Quand on écoute effectivement les discours de certaines personnes politiques, je pense à Trump, à Elon Musk, par exemple, qui balance des contre-vérités et que tout un peuple va suivre, finalement, alors que ce sont de véritables mensonges. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se positionner par rapport à ça? De la même manière, est-ce que certains ne peuvent pas se positionner en disant « il est interdit d'attaquer ces gens-là, hein, même s'ils disent des mensonges » Comment se positionner et comment savoir ce qu'il faut dire ou pas?
Bon, là, vous parlez de l'Amérique de Trump. Hein.
Le négationnisme auquel vous faisiez
allusion. Là, je voudrais faire référence Le Pen, à deux affaires pour parler des États-Unis. Il y a quelques temps, un grand journal, le New York Times, qui a pris la décision de cesser toute publication de dessins de presse à vocation politique. Cette décision a été prise par la rédaction, la direction de la rédaction du New York Times, suite à des plaintes qui ont été faites de lecteurs du New York Times pour un dessin qui était fait par un dessinateur de presse portugais qui s'appelle Antunes et qui mettait en scène Trump et Netanyahu. Ce dessin a été jugé par certains lecteurs comme antisémite et le New York Times a pris cette décision sans retour. Pour moi, c'est une catastrophe pour la liberté d'expression. Un journal comme le New York Times peut discuter avec un dessinateur du fait de publier ou pas un dessin, mais de prendre la décision définitive et sans retour de publier dans l'avenir des dessins, c'est vraiment un acte qui met en péril la liberté d'expression aux États-Unis. L'épisode dernier, c'est ces jours-ci, où un dessin de Madame Anne Talnesh, qui a été censuré par le Washington Post, qui a entraîné donc la dessinatrice de presse à démissionner. Ça faisait plus de 10 ans qu'elle travaillait pour le Washington Post. Et là, pour un dessin où l'on voit des hommes puissants, vous parlez de Musk, mais on voit donc des gens qui sont à la tête des grands
groupes économiques
et des big data, remettre des sacs de dollars à une figure qui semble immense, une sorte de socle avec un personnage dont la tête n'apparaît pas, et on lui offre tous ces gens-là. Qui sont à la tête des réseaux sociaux, lui offrent des dollars, en fait, des sacs de dollars. Et le directeur du Washington Post a préféré censurer ce dessin. Voilà, donc, vous avez évoqué le mot de l'autocensure. Censure, autocensure, j'allais dire que c'est deux choses différentes. Mais là, l'autocensure peut être encore plus grave, je pense, parce qu'elle est insidieuse, on ne la connaît pas, on ne connaît même pas son existence pour la plupart. C'est-à-dire qu'elle se fait dans le silence, mais elle se fait.
Alors vous avez évoqué l'antisémitisme en particulier, donc les aspects religieux hein, qui ont abouti effectivement aux assassinats de Charlie Hebdo. Est-ce que selon vous, dans le dessin de presse ou dans les articles de presse, on doit porter un respect particulier aux convictions religieuses ?
Écoutez, non, je ne vois pas. Le dessin de presse n'a pas pour vocation de faire de l'imagerie. C'est le dessin de presse, j'allais dire même que c'est dans sa nature et dans ses origines, c'est un dessin qui se permet la satire, l'humour, la dérision. Et c'est pas, comment dire, dans les codes des bonnes manières. Quoi. Ça doit par moments choquer. Ça peut être un coup de poing, un dessin de presse, hein, mais un dessin de presse n'a jamais tué personne. Ça peut déranger, on peut être choqué. Là, j'arrive de Toulouse où le 7 janvier, on a inauguré une de nos expositions. Et il y avait une dame dans la soirée qui a pris la parole et qui disait « Charlie Hebdo, ils ont fait des dessins sur les militaires, mon mari était militaire. » Bon, là, moi, je conçois tout à fait qu'on puisse être choqué, voire même très choqué par un des dessins, mais c'est pas pour autant qu'on va censurer les dessins, je veux dire. Et les dessins n'ont jamais tué personne. Ça peut faire du mal, effectivement. Mais après, la morale, quelles sont les limites de la morale? On peut pas légiférer sur la morale. On a le droit dans notre pays à blasphémer, on a le droit à critiquer la religion. Par contre, je n'ai pas le droit de rire de vous parce que vous êtes musulman ou chrétien en tant qu'individu. C'est-à-dire qu'on a le droit. C'est des délits d'imaginaire. Vous voyez ce que je veux dire. On est sur le droit de la pensée. On a le droit de penser et on a le droit de remettre en cause, oui, le sacré, la religion.
Donc le fait de choquer ou de faire polémique sont, selon vous, peut-être de bons moyens d'éveiller les consciences et de réfléchir.
C'est de la liberté des auteurs. Libre à chacun d'apprécier, de s'abonner, de lire un journal. Hein. On n'oblige personne. Enfin, la rédaction de Charlie Hebdo n'a jamais rendu obligatoire la lecture de son journal. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, aujourd'hui, il y a des outils qui dépassent. C'est très important d'en parler. On vit, j'allais dire, une époque formidable. On a la chance de vivre, j'allais dire, une époque de révolution totale avec un outil qui s'appelle Internet. C'est une chance inouïe. J'allais dire que ça se passe pas dans la vie de l'humanité. Des révolutions comme ça, il n'y en a pas eu 10 000. Donc, mais d'un autre côté, il faut aussi se dire que Internet, qui est un phénomène assez récent, il y a 20 ans, 30 ans, aujourd'hui, permet à des gens malveillants de propulser un dessin qui est publié dans une revue qui s'adresse à un électorat précis à l'échelle de la planète. C'est-à-dire que on est dans un monde et avec, là c'est aussi important, mais un magazine, une revue comme Charlie Hebdo, il y a un directeur de rédaction, un directeur de publication qui est responsable devant la loi. Sur Internet, personne n'est responsable de rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de législation. Donc il y aura un jour à légiférer, c'est évident. Le monde du livre a mis des siècles pour légiférer l'imprimerie. Donc il nous faudra peut-être quelques décennies, mais nous y arriverons, pour légiférer le net. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut remettre en cause ni les réseaux sociaux, ni Internet, qui sont aussi des outils fabuleux de liberté.
Une dernière question avant la pause musicale. On a parlé, évoqué Charlie Hebdo, hein, l'assassinat. Il y a d'autres caricaturistes ou écrivains qui ont écrit, effectivement, sur des thèmes religieux, entre autres, comme Salman Rushdie ou Maguib Mahfouz, qui ont été attaqués, qui ont été victimes d'attentats. Selon vous, est-ce qu'il faut instaurer une protection des caricaturistes, des humoristes, en France, dans les différents pays du monde? Est-ce qu'il faut mettre ces gens-là sous protection?
Ils le sont. Toute l'équipe de Charlie Hebdo, tous les rédacteurs de Charlie Hebdo ont des gardes du corps permanents. On ne sait pas où ils travaillent. C'est une vie compliquée pour eux. Hein. Je pense que la République doit protéger les individus s'ils sont menacés de mort, puisque c'est leur cas. Il y a eu mort, et il peut y en avoir demain. Enfin, puis on a vu que ça dépasse aujourd'hui même le monde du dessin de presse. Hein, puisque je ne sais pas si on en parlera, mais il y a eu quand même des crimes depuis 2015 où des gens qui ont pour fonction d'enseigner ont été assassinés pour des raisons qui sont assez proches.
Absolument. Vous-même, vous avez été, dans le cadre de votre travail et des caricatures que vous faites, été l'objet de menaces?
Nécessairement, j'allais dire, mais pas que des milieux islamistes. J'allais dire que l'extrême droite, les populistes d'extrême droite, voire d'autres formes de populisme, nous ont critiqués pour notre liberté d'expression. À l'extrême gauche comme à l'extrême droite, on a fait l'objet de critiques assez violentes. J'allais dire que c'est... tant que ça reste au niveau du débat, ça me gêne pas. On a eu des moments d'intimidation. En 2017, l'association Le Crayon a fait une très grosse exposition itinérante qui s'appelait au bout du crayon, le FN au bout du crayon. Cette exposition, je l'ai fait tourner dans toutes les villes, dans toutes les communes qui avaient été acquises au Front National. Voilà. Donc des fois, on avait quelques sbires avec des regards menaçants ou sur les réseaux sociaux. Enfin, on s'est fait traiter d'islamo-gauchistes dégénérés, différentes...
Mais c'est jamais allé plus loin.
Ça n'a jamais été plus loin, non.
D'accord. Je vous remercie pour cette première partie d'interview. Nous allons prendre le temps d'une pause musicale pour écouter le chant « Liberté » sur le poème d'Éluard et interprété par Madeleine Perrot.
Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. J'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur les temps soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des Mantes, j'écris ton nom. j'écris ton nom sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer.
Poursuivons le thème de notre émission Parlons des droits humains, consacrée ce soir au thème de la liberté d'expression avec Alexandre Faure, président de l'association Le Crayon. Nous avons évoqué un petit peu les définitions de la liberté d'expression dans la première partie. Parmi la liberté d'expression, nous avons évoqué, en préparant cette émission, le cas des lanceurs d'alerte, qui effectivement mettent leur vie souvent en danger ou du moins en précarité pour dénoncer des faits. Est-ce que pour vous, ça ressort de la liberté d'expression ?
Bien évidemment. Ces gens-là sont, pour certains d'entre eux, encore aujourd'hui en prison, alors qu'ils sont, ils ont fait leur devoir d'information, et en toute logique, je ne comprends pas pourquoi ces gens-là sont emprisonnés. Mais probablement celui le plus connu, c'est Assange. Là.
Oui.
Et on a dans notre l'avant-dernière exposition sur liberté d'expression et censure, un dessin de Chapat, un grand dessinateur suisse, qui montre donc la censure qui est. Plus que la censure, enfin la mise en prison d'Assange.
Oui, lui, Assange et Snowden sont les deux mots, les deux noms qui reviennent effectivement le plus souvent. Donc nous allons rentrer plus dans le détail pratique de ce que vous faites, de ce que fait votre association. Donc un de ses slogans est « éduquer, expliquer, éveiller les consciences ». On va revenir sur ces thématiques. Vous avez expliqué que vous aviez créé l'association suite aux attentats de 2015. Et pouvez-vous nous expliquer précisément le choix du dessin de presse ? Parce qu'en fait, vous avez indiqué que vous êtes romancier, écrivain. Vous auriez pu choisir de travailler sur des textes. Pourquoi utiliser le dessin pour la pédagogie ?
Ben, en l'occurrence, là, le 7 janvier, c'est une équipe rédactionnelle qui a été assassinée pour avoir publié un dessin du montrant le prophète. Donc là, c'était le dessin de presse qui était visé. Dans mon parcours d'éditeur, vous disiez tout à l'heure que j'avais créé la revue Dada, qui est une revue d'initiation à l'art. Donc c'est vrai que ça correspond à quelque chose d'important pour moi, c'est-à-dire que la création artistique est un des pans très importants de cette liberté de création. Créer des images, je pense que c'est probablement à l'origine même de notre identité en tant qu'homme. C'est-à-dire que l'homme de l'Homo sapiens dessinait sur les murs avant de savoir écrire. Donc c'est une forme, j'allais dire, qui nous identifie en tant qu'homme.
Et qui est compréhensible justement pour ceux qui n'ont pas l'accès à l'écriture ou à la langue du dessin. C'est un côté universel aussi, le dessin.
Universel, bien que répondant quand même à des critères, à des codes aussi. Hein. C'est-à-dire que...
Selon les régions du monde.
Oui, bien sûr. Et ça, on l'explique au jeune public, hein, quand on va dans les collèges ou les lycées. Un même thème, et on l'illustre par des dessins. On a un dessin, par exemple, qui parle de l'évolutionnisme, des théories de Darwin. C'est un sujet qui est souvent traité en dessin de presse. Et donc, si vous êtes italien ou français ou espagnol ou américain, vous dessinez donc l'évolution qui va donc de... je caricature, oui. du singe à l'homme. Ça se fait sur une marche qui va de gauche à droite.
Oui.
J'ai reçu des dessins de dessinateurs, notamment par exemple d'une dessinatrice de presse du Bahreïn, où elle montre l'évolution, cette notion d'évolutionnisme, et elle dessine de droite à gauche.
Effectivement, c'est dit.
Voilà, on est. Et souvent, si vous regardez des dessins de presse qui émanent de dessinateurs d'Irak, de Syrie ou d'ailleurs, la dynamique d'un mouvement se fait de droite à gauche et non pas de gauche à droite.
C'est exact, oui.
Voilà, donc c'est des codes. Et quand on va dans les collèges et les lycées, on explique que ça répond aussi à des codes qu'il faut connaître. Il y a des symboles de couleurs, par exemple. Mm-hmm. On n'a pas sur Terre les mêmes symboliques de couleurs. Le noir, par exemple, peut être un signe de deuil. Le blanc peut être un signe de deuil. Donc voilà, j'allais dire... C'est vrai qu'un dessin est plus compréhensible à l'échelle internationale, mais il répond quand même aussi à des choses qu'il faut savoir. Là, récemment, par exemple, des jeunes filles de collège m'ont repris sur des dessins où on voit une femme avec des seins nus. Et j'ai dû leur expliquer que c'était une allégorie et que les allégories, nous, on a ça dans la culture européenne depuis l'Antiquité. Une Antiquité qui n'était pas sous la tutelle des monothéismes, mais qui était à l'époque du polythéisme en Grèce. Mmh. On avait déjà une relation, comment dire, le corps nu pouvait être représenté.
Oui, c'est un référentiel différent.
Voilà.
Et justement, dans ce type de références qui ne sont pas communes, comment vous définiriez la caricature ? Est-ce que ça, c'est universel ou c'est quand même spécifique aux sociétés occidentales ? Parce qu'en fait, c'est une accentuation de traits qui peuvent être physiques, mais qui peuvent aussi être représentés par rapport à des traits caractéristiques autres. Qu'est-ce qu'une caricature ?
Alors, aujourd'hui, il y a des caricaturistes, des dessinateurs de presse et dessinatrices de presse. Hein. On parle souvent de dessinateurs, parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est plutôt d'hommes. Mm-hmm. Il y a de très grandes dessinatrices de presse. Elles sont un peu moins nombreuses, mais je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pays où il n'y a pas de dessinateurs de presse.
Mais alors justement, j'ai du mal entre dessinateurs de presse et caricaturistes. Parce que caricaturiste, c'est quand même une charge.
Oui, souvent, j'allais dire que dans la presse, le dessinateur de presse va utiliser la forme de la caricature, donc utiliser ce pouvoir du rire, de la dérision, de l'ironie comme forme d'expression. Mais un dessin de presse n'est pas nécessairement caricatural.
Oui.
J'allais dire qu'il peut prendre différentes formes. Il y a des dans nos expositions, vous pouvez voir par exemple une des figures centrales de la liberté d'expression qui est Voltaire. Et Voltaire n'est pas caricaturé dans ce dessin auquel je pense. On le voit, il est tout à fait reconnaissable. Il a pas des traits caricaturé au sens, parce que c'est l'origine du mot caricature, c'est le portrait charge, hein, oui. C'est-à-dire d'accentuer des traits. Et tous les dessinateurs de presse ne passent pas par ce biais, nécessairement.
Oui. C'est différent.
Voilà.
On a évoqué là au cours de notre entretien à plusieurs reprises vos expositions itinérantes. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler les thèmes principaux et comment elles se composent ? Moi-même, j'ai été agréablement surprise de voir à la fois l'exposition de dessins ou de caricatures et des références littéraires qui mettaient en valeur effectivement ce qu'exprimaient les dessins.
Alors, nos expositions de dessins de presse sont déjà des expositions itinérantes.
Oui.
Elles sont thématiques. Elles réunissent à chaque fois des auteurs de tous les continents. Donc, ce sont des expositions importantes dans leur ambition. Enfin, vous faites allusion à l'exposition que nous avions présentée au Festival du Livre de Montsartou, qui portait sur liberté d'expression et censure. Je crois qu'il y avait 252 dessinatrices et dessinateurs dans cette exposition. Après, les choix que nous faisons, c'est d'essayer de montrer parmi ces dessinateurs, certains sont très très connus, mais on se doit aussi de faire découvrir des gens moins connus. On a le choix de présenter des dessins qu'on appelle muets, c'est-à-dire sans qu'ils ne soient pas trop bavards par le texte, parce que nos expositions vont aussi à l'étranger, donc on essaye d'être le plus parlant par le dessin lui-même. Et puis, parfois, de confronter des expressions différentes sur le même thème. C'est-à-dire que c'est intéressant de montrer au public qu'une même idée peut se formaliser différemment. Donc, je vais vous prendre un exemple. On a une exposition qui porte sur le thème des exilés, réfugiés, migrants. Et on aborde la question, comment dire, de ces réfugiés qui, pour certains, vont être pris dans le flot de la Méditerranée. Et il y a un dessinateur qui s'appelle Sanson qui a fait un dessin qui s'appelle le blues du migrant. Et on voit, c'est une partition de musique. Et les notes sont, si on les regarde de près, en fait, ce sont des migrants qui sont tombés à l'eau et qui vont se faire absorber par les flots. Donc c'est une façon. Il n'a pas dessiné un bateau, il a dessiné une partition. Et à côté, donc, on a d'autres dessins où on voit des gens sur des bateaux. Donc c'est aussi.
C'est une déclinaison différente.
Voilà. Et notre rôle, quand on parle, puisque le rôle du crayon, c'est aussi de faire de l'initiation à l'image, c'est de faire découvrir, parce que le dessin de presse, en fait, c'est une peau de chagrin infernale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et notamment dans la presse régionale, il y a très très peu de dessins, et s'il y en a, c'est souvent du dessin qui est plus proche de l'imagerie pieuse que de la vraie caricature. On est loin de Daumier, quoi. Hein.
Oui, tout à fait. Et donc, vos interventions, vous nous indiquez un secteur géographique large, c'est-à-dire vous intervenez dans les établissements scolaires, dans les festivals, en France, mais aussi à l'étranger.
Alors, nos expos vont à l'étranger, mais par contre, on n'intervient pas en milieu scolaire à l'étranger. Par contre, on intervient, j'allais dire, à travers des ateliers pédagogiques sur l'image et le dessin de presse dans les collèges et les lycées. Mais là, par exemple, tout récemment, on vient de faire une exposition avec une école primaire et maternelle, où on a demandé aux enfants de s'exprimer sur liberté, égalité, fraternité.
Et donc vous intervenez de maternelle à lycée ?
Oui.
D'accord.
On intervient des fois avec des tout-petits. Alors, on intervient différemment. Hein. Dans les ateliers pédagogiques, on a même des gens qui sont des gens de théâtre et qui interviennent parce que le corps est un outil d'expression aussi. Donc, c'est aussi s'exprimer par son corps, par ses mains, par ses yeux, pas que par sa bouche. Donc, nos ateliers peuvent être très divers. Mais globalement, prioritairement, c'est l'initiation du dessin de presse. Donc, on fait intervenir des dessinateurs de presse et on intervient. Par exemple, moi, j'interviens en tant qu'historien sur l'image, sur l'histoire des médias, l'histoire de la presse, l'histoire de la caricature.
Et côté pratique, vous nous indiquez qu'effectivement, vous étiez agréé par le ministère de l'Éducation nationale et que vos expositions pouvaient être financées par le Pass Culture.
Nos expositions et nos ateliers, oui, effectivement. peuvent être demandées via l'adage. Donc les enseignants peuvent, pas en primaire, pas en primaire et en maternelle, par contre collège et lycée, effectivement, nos expositions tournent beaucoup à travers cette possibilité que nous offre le Pass Culture. Et les ateliers aussi.
Et au niveau des collèges et lycées, est-ce que vous avez des témoignages, des exemples de réactions face à des dessins qui peuvent heurter justement la nudité pour certains ou carrément les dessins religieux ? Est-ce que vous avez des rejets ou au contraire des jeunes qui apprennent grâce à vous à regarder ces dessins autrement ?
Alors, oui, on va à eux pour qu'ils apprennent. On va à eux essentiellement dans le cadre de dialogue, c'est-à-dire que j'essaye au maximum qu'ils s'expriment. C'est-à-dire que quand je vais dans un collège ou un lycée, je les amène à analyser souvent eux-mêmes les dessins. Parfois, c'est pas évident. Mais monsieur, on n'a pas le droit de se moquer comme ça, on n'a pas le droit de ci, on n'a pas le droit de ça. Après, on dit, mais pourquoi pas le droit Là, j'évoquais tout à l'heure la nudité. Quand on me dit qu'un dessin de Plantu est indécent parce qu'il fait un hommage à la liberté guidant le peuple de Delacroix.
Qui est torse nu.
Où effectivement Marianne est. Enfin, c'est pas Marianne, c'est la liberté. Et ça, c'est. J'allais dire qu'on est. On est allé à un degré encore plus loin. C'est pas uniquement représenter le prophète. Là, vous voyez, c'est sur des choses. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des enseignants de littérature, par exemple, qui ne peuvent plus enseigner certaines mythologies païennes. Ou enfin, j'avais lu dans la presse une enseignante à qui les parents d'élèves ça s'était plaint parce qu'elle avait dans un cours sur les mythologies païennes, elle avait présenté un tableau du début du 17e où l'on voyait Diane et Actéon au bain, enfin Diane au bain. On est loin du prophète là. C'est comme de pourquoi pas dire monsieur, on ne veut plus écouter de la musique par exemple, parce que la musique peut être aussi une remise en cause peut être jugée inacceptable.
Oui, certains n'acceptent pas la
musique. Oui, la musique. Bon, alors après, moi j'explique aussi à ces jeunes que toutes les religions sont passées par des interdits comme ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le 16e Calvin, par exemple, dans la réforme. Calvin se prononçait contre la danse et la musique. Oui. Il trouvait ça totalement indécent. Bon, j'allais dire que ça a été un temps, et puis aujourd'hui les protestants ont oublié ça. Hein. Je pense que beaucoup de protestants ignorent que Calvin se soit prononcé contre la danse.
Mais surtout, ils dansent, donc
voilà.
ils en tiennent plus compte.
Bon, j'allais dire que l'histoire, il est important de resituer, et quand on dialogue avec des jeunes collégiens ou des lycéens, il est important de remettre les choses, les idées, dans un débat sur le long terme.
Et dans un contexte.
Et dans un contexte, voilà.
Ça rejoint un petit peu certaines tendances qui veulent déboulonner des statues ou supprimer des tableaux, parce que maintenant, ça leur paraît anachronique. Mais dans le contexte dans lequel ils ont été créés, ils se justifiaient tout à fait.
Oui.
Et c'est la pédagogie qui permet de comprendre pourquoi ces statues ou ces tableaux existent.
Alors, c'est vrai que beaucoup de jeunes collégiens, ne voyant pratiquement jamais de dessins de presse dans les journaux, puisqu'il y en a presque plus, et pas que sur des questions religieuses. Hein, je citerai pas les noms, mais je connais plein de dessinateurs de presse qui ont été censurés pour des raisons, parce qu'ils interviennent sur telle entreprise qui était annonceur de tel grand média et qui refuse un dessin. Voilà, ça va bien au-delà du sacré aujourd'hui, ces problèmes de censure.
Et donc, à partir de ces thèmes-là, on a évoqué le mot de laïcité tout à l'heure. Pour vous, qu'est-ce que ça représente ? À travers le dessin et à travers vos contacts avec ces classes ?
La laïcité, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. C'est très proche pour moi de la notion de fraternité. C'est-à-dire que la laïcité est ce qui va permettre aux élèves de cohabiter, quelles que soient les religions, quel que soit le fait de croire ou de ne pas croire. Mais c'est, j'allais dire que c'est la tolérance, mais la tolérance qui a des limites. C'est-à-dire que dans l'enceinte de certains lieux comme l'école, on ne doit pas, comment dire, mettre en avant ses croyances, voilà. Mais ça ne c'est pas pour autant l'interdiction des croyances. Au contraire, ça permet à toute forme de croyance d'exister et de cohabiter dans notre pays. Pour moi, c'est vraiment la loi de 1905 est une loi précieuse de tolérance et de vivre ensemble.
Oui, qui est la loi de séparation de l'Église et de l'État. Oui. Et donc de l'enseignement et de l'Église. Mmh. En conséquence.
Voilà, mais j'allais dire que on n'a pas à faire de prosélytisme à l'intérieur de l'école, c'est très bien, quoi.
Et ça, auprès de vos publics, cela passe comment ? Est-ce que vous avez des réactions d'adhésion ou ça demande effectivement un travail et des enseignants et des pédagogues ?
Quand on leur explique que la loi de 1905 ne va pas contre le religieux, mais quand on leur explique que c'est quelque chose qui réserve la pensée religieuse dans le domaine du privé, mais souvent, justement, c'est pas compris en tant que tel. Par beaucoup de jeunes, c'est...
Et par beaucoup de citoyens aussi.
De citoyens aussi, c'est une façon de marquer plutôt l'anticléricalisme, mais non, la loi, et d'ailleurs, les gens qui ont créé la loi de 1905, ils allaient pour la plupart et tous à l'église. Tous les républicains qui ont créé la loi de 1905, c'était pas des... pas nécessairement. Alors, ils pouvaient être anticléricaux, mais là, ils dénonçaient des déviances du clergé, mais ils n'étaient pas nécessairement sans croyance, au contraire. Enfin, je pense que la société française a beaucoup évolué, mais en 1905, pratiquement tous les Français étaient croyants.
Oui, il y avait une religion, même s'ils s'opposaient à certains comportements de l'Église.
Mais ils ont créé cette loi qui est une loi qui permet justement de respecter le domaine du religieux dans la sphère privée.
Il y a une citation que j'ai lue dans une de vos expos. La laïcité signifie que dans la société, nous sommes définis par notre citoyenneté et en aucun cas par notre religion. Oui. J'ai trouvé cette citation absolument exacte, vraiment...
Oui, mais Abdelmalik est croyant, il est soufi, en fait, Abdelmalik. Donc il a une forme de croyance un peu, comment dire, il y a différentes tendances au sein de l'islam.
C'est une tendance mystique.
Il est à l'antithèse des salafistes, quoi.
Tout à fait. Et donc, vous avez également dans vos activités des concours de dessin et des créations de journaux d'école. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous fonctionnez ?
Alors, chaque année, on a un thème. On lance un concours de dessin qui s'organise autour de trois niveaux, primaire, collège et lycée. Et on a un thème, donc cette année, c'est liberté, égalité, fraternité, laïcité. Voilà, chaque année. L'année passée, c'était liberté d'expression et censure. On avait en tête l'année passée beaucoup, et on a reçu d'ailleurs beaucoup de dessins sur cette déclinaison, qui était la question du harcèlement en milieu scolaire. Oui. Parce qu'au nom de la liberté, est-ce qu'on peut tout dire de son copain de classe ? Voilà. Et donc, c'était aussi une façon d'amener ces collégiens ou ces lycéens ou ces élèves de primaire à réfléchir aussi sur cette question du harcèlement qui fait partie de leur quotidien.
Oui, ça développe effectivement leur propre capacité.
Au nom de la liberté, est-ce qu'on peut tout dire ?
Oui. Donc, en pré-conclusion de cette émission, est-ce qu'on peut parler des perspectives ? Comment vous envisagez l'avenir ? Est-ce qu'on vous souhaite beaucoup d'expositions ? Je pense que vous en avez beaucoup qui sont prévues, est-ce que vous avez des actions particulières sur 2025 ?
Ben là, on vient d'inaugurer le 11 cette nouvelle exposition sur Au bout du crayon, les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Donc on va la promouvoir. Après, j'allais dire qu'on va garder ce cap prioritaire qui est le fait d'aller initier le jeune public au dessin de presse. ça reste notre démarche première.
Merci. Avant la conclusion de cette émission, nous prenons le temps d'une troisième pause musicale avec Hervé Christiani, Il est libre, Max.
Il met de la magie, mine de rien, dans tout ce qu'il fait. Il a le sourire facile, même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il regarde autour de lui avec les yeux de l'amour. Avant que t'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Il fait pas de bruit, il joue pas du tambour. Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler.
Émission Parlons des droits humains, consacrée ce soir au thème de la liberté d'expression avec Alexandre Faure, président de l'association Le Crayon. Et donc, en conclusion de cette émission, et pour terminer tout ce qui vient d'être partagé et dit, quel message vous souhaiteriez faire passer à nos auditeurs, justement ?
Je vais peut-être laisser le mot de la fin à quelqu'un que j'aime beaucoup, un grand écrivain du XVIe siècle qui s'appelle Rabelais, et il disait « Le rire est le propre de l'homme ». Je crois que le dessin de presse est là pour, aussi pour faire rire, pour faire réfléchir, certes, mais en passant par la satire. Et j'allais dire que si je fais référence à Rabelais, c'est pas pour rien, ça veut dire que c'est vraiment ancré dans notre culture depuis des siècles, quoi. Voilà.
Eh bien, merci Alexandre Faure. Merci et au revoir, à bientôt, j'espère. Et donc, pour nos auditeurs, vous pouvez réécouter cette émission que vous pourrez normalement télécharger sur le site d'Agora Côte d'Azur. Par ailleurs, l'émission sera rediffusée normalement le lundi 3 février prochain à 21h sur Agora. Et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission de février qui aura lieu le lundi 17.